Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principes Actifs. Donc c'est Amnesty International pour sa deuxième et dernière émission du mois de novembre. Une émission qui va être consacrée ce soir essentiellement à notre plus grande campagne annuelle de mobilisation pour les droits humains au niveau d'Amnesty qui s'appelle 10 jours pour signer. Alors je vais vous en dire quelques mots et après on va vous parler des différents cas qui vont être soutenus pendant cette campagne de mobilisation. Donc les 10 jours pour signer, ben, c'est né en fait d'une initiative d'Amnesty Pologne en 2001, où il y a des militants de cette section qui se sont regroupés pendant 24 heures et qui ont écrit et fait signer 10 000 cas d'intervention pour la défense des droits humains. Et donc ils les ont envoyés après aux ambassades, enfin, etc., etc. Et du coup, ça s'est su au niveau des différentes sections d'Amnesty. On rappelle que Amnesty est un mouvement international qui est présent dans plus de 70 pays et que donc les différentes sections ont repris l'idée et ont généralisé et on s'est dit pourquoi ne pas faire une campagne de mobilisation d'une dizaine de jours au mois de décembre, autour du 10 décembre, parce que le 10 décembre, on vous le rappelle, c'est l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà, donc c'est parti comme ça. Et l'année dernière, il y a eu des millions et des millions d'actions qui ont été entreprises par les différentes sections, dont plus de, si j'ai bonne mémoire, plus de 600 000 en France. Voilà. Et donc, pour vous présenter la campagne cette année, qui va démarrer là la semaine prochaine, je vais vous lire en fait un petit texte qui a été signé par notre président, Jean-Claude Sémouillé, et qui fait une présentation de cette campagne, parce que cette année, la campagne est en relation avec une autre campagne d'Amnesty pour la défense du droit de manifester. Alors voilà ce que dit Jean-Claude. Partout dans le monde, le droit de manifester et la liberté d'expression sont les cibles d'attaques sans précédent. Et pour cause. Les dirigeants savent à quel point ces droits fondamentaux sont de puissants leviers de changement. C'est pourquoi certains n'hésitent pas à menacer, à réprimer, à jeter en prison et à torturer des femmes et des hommes dont le seul crime est d'avoir exprimé leur opinion. Ce sont 10 personnes ou groupes de personnes victimes de cette terrible répression dont je vous appelle à soutenir aujourd'hui dans le cadre de notre campagne 10 jours pour signer. Organisée chaque année autour du 10 décembre, journée des droits de l'homme, cette campagne de mobilisation mondiale est l'un des principaux rendez-vous annuels de défense des droits humains. En y participant, par votre don et votre signature, vous n'apporterez pas seulement un secours urgent à des personnes en danger, vous défendrez le droit de manifester et la liberté d'expression pour toutes et tous. Et un immense merci d'avance. Et voilà, et juste pour conclure, avant de laisser la parole à Edith, j'ai oublié de vous présenter.
Tu ne nous as pas présenté.
Non, mais
nous, on attendait. Mais
nous,
c'était
on
beau.
En a marre. Hein.
Donc, il y a Edith.
Bonsoir.
Et il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Et donc, juste avant qu'Edith vous parle du premier cas, je voulais vous rappeler que vous pouvez déjà, si vous n'avez pas l'occasion de nous rencontrer, vous avez déjà la possibilité pour signer pour les pétitions en ligne sur le site d'Amnesty.
Ouais, mais Amnesty.fr. C'est plus sympa, on va être sur Evo, oui. On va vous dire oh, comme ça on se rencontrera.
Je suis bien d'accord. Mais c'est juste pour les gens qui ne pourraient pas. Voilà.
Oui, tu as raison.
Donc, Edith, c'est à toi.
Eh bien, Didier nous a expliqué que c'était par rapport au droit de manifester. Et moi, ce qui m'a frappé en lisant les cas, c'est-à-dire la vie des gens, hein, c'est ça, on explique. Alors, ce sont pratiquement des gens relativement jeunes et qui sont, on va dire, c'est même pas, ils sont pas dans un grand militantisme, ils sont comme tout le monde. Voilà, je vais vous parler, moi, de trois jeunes femmes du Zimbabwe, c'est Cecilia, Johanna et Netsa. Eh bien, c'est trois femmes qui ont des points en commun. Elles adorent les jeux de société, regarder les séries, mais elles sont passionnées de politique et elles ont un désir commun de changement social. Et luttent ensemble pour que les habitants et habitantes de leur pays puissent profiter de plus de droits et de libertés. Alors, ce qui leur est arrivé le 13 mai 2020, après avoir mené une manifestation anti-gouvernementale, Johanna, Netsa et Cecilia ont été arrêtées arbitrairement à Harare, amenées à un poste de police, forcées de monter dans une voiture banalisée, et elles ont été conduites à l'extérieur de la ville en étant en étant encagoulées. Là, elles ont été jetées dans une fosse, rouées de coups, agressées sexuellement, contraintes à manger des excréments humains et elles ont vraiment craint pour leur vie. Elles ont été retrouvées 2 jours plus tard à des kilomètres d'Harare, les vêtements déchirés. Couvertes de coupures, d'ecchymoses, elles ont été amenées à l'hôpital. On pourrait penser que tout aille bien, mais non. À l'hôpital, elles ont été inculpées d'infractions pénales en lien avec la manifestation à laquelle elles avaient manifesté pour rassemblement avec intention de fomenter la violence publique et troubles à l'ordre public. À l'hôpital, des surveillants pénitentiaires et des policiers ont été envoyés sur place afin de les empêcher de communiquer avec des journalistes. Après avoir déclaré qu'elles avaient reconnu certains de leurs agresseurs, les 3 femmes ont été arrêtées, de nouveau le 10 juin 2020, accusées d'avoir menti sur ce qu'elles avaient vécu, et elles ont été maintenues en détention jusqu'au 26 juin 2020, date à laquelle où elles ont été libérées, mais sous caution. Et depuis janvier 2022, leur procès se poursuit. Et jusqu'à présent, personne n'a eu de compte à rendre pour le terrible traumatisme qu'elles ont subi. Alors juste 3 phrases de ces 3 jeunes femmes. Netsa, personne ne devrait être marqué à vie par la souffrance en raison de son affiliation politique. Johanna, les jeunes ne doivent pas céder à la peur. Nous devons affronter et dépasser ce qui nous effraie le plus. Cécilia, au lieu de bénéficier de la protection de l'État, les victimes d'atrocités sont poursuivies en justice, tandis que les auteurs des crimes qu'elles ont subis ne sont pas inquiétés. Voilà, si vous voulez signer pour elles et demander aux autorités de Zimbabwe de changer complètement, d'abandonner toute charge contre elles, voilà. Vous pourrez le faire dans cette campagne.
Et bien maintenant, je vais vous parler de Zineb Redouane. Et ce cas s'est passé en France. Donc, ce n'est pas souvent qu'il y a des cas français dans les 10 jours pour signer.
Donc, le premier... On pensait être dans un pays un peu de droit, c'est
ben
ça?
Ben oui, hein, alors, justement. Donc, le 1er décembre 2018 à Marseille, Zineb préparait le repas et parlait avec sa fille au téléphone dans son appartement, situé au 4e étage. Dans la rue, des personnes manifestaient contre les mauvaises conditions de vie à Marseille après l'effondrement de 2 immeubles d'habitation qui avaient fait 8 morts. En cours de manifestation, des gilets jaunes se sont joints à cette manifestation organisée par le collectif du 5 novembre. Des policiers ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants et les manifestantes. Voyant que du gaz lacrymogène entrait par sa fenêtre ouverte, Zineb est allée la fermer et a remarqué des policiers en bas dans la rue. Elle a été touchée au visage par une grenade lacrymogène MP7. Zineb a dit à sa fille au téléphone « Le policier m'a visé, je l'ai vu ». Elle a été emmenée à l'hôpital. Elle présentait de graves blessures au visage et saignait abondamment. Ses fractures de la mâchoire et l'effondrement de son palais la faisaient suffoquer. Elle devait être opérée d'urgence, mais l'intervention n'a pas pu être menée à bien car Zineb a fait un arrêt cardiaque sous anesthésie. Elle en a fait plusieurs autres ensuite, avant de décéder le lendemain. Zineb a été victime de l'utilisation irrégulière et dangereuse d'une grenade lacrymogène. Près de 4 ans plus tard, l'enquête sur sa mort est encore en cours et personne n'a été inculpé ni suspendu pour cet homicide. La famille de Zineb attend toujours que justice soit rendue. Donc nous vous invitons, c'est pareil, à signer les pétitions pour que justice soit rendue à la famille de Zineb.
Oui, et maintenant on va partir en Russie pour défendre une femme qui s'appelle Alexandra Skotchilenko. Vous en avez parlé d'ailleurs à une précédente émission pour ceux qui nous écoutaient il y a peut-être 2 mois par là. La vie d'Alexandra est remplie d'art et de musique. En des temps plus sereins, cette femme de 32 ans qui aime jouer du piano, de la guitare, de la mandoline et de la flûte avait l'habitude d'animer des sessions musicales improvisées lorsque des personnes voulaient jouer ensemble. Troublée par l'invasion russe en Ukraine, elle a décidé de ne pas rester silencieuse. Le 31 mars 2022, dans un supermarché de Saint-Pétersbourg, elle a remplacé les prix des produits par des petites étiquettes en papier révélant des informations sur l'invasion russe en Ukraine. le 11 avril, tôt dans la matinée, elle a été arrêtée par la police avant d'être inculpée de diffusion publique délibérée de fausses informations sur l'utilisation des forces armées russes. Ce nouvel article du code pénal a été introduit à la hâte par le gouvernement russe en mars 2022 pour empêcher les Russes de critiquer l'invasion de l'Ukraine. Des dizaines de personnes font l'objet de poursuites pénales en vertu de cet article. Alexandra est détenue depuis lors dans des conditions déplorables. Atteinte d'une intolérance au gluten, elle est la plupart du temps dans l'impossibilité de se nourrir car le centre de détention ne lui fournit pas les aliments qui lui conviennent. De plus, elle a été harcelée par le personnel du centre de détention et par ses co-détenus. Si elle était reconnue coupable, elle encourt jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Donc on demande bien évidemment aux autorités russes d'abandonner toutes les charges retenues contre Alexandra Skotchilenko et de la libérer immédiatement, car elle a été inculpée uniquement pour avoir exercé pacifiquement son droit à la liberté d'expression. Et on leur demande également d'abroger les articles qui parle de cette atteinte, comment c'est formulé, de fausses informations sur l'utilisation des forces armées russes. Voilà. On pourra aussi envoyer des messages de soutien à Alexandra et qui seront transmises via la section russe d'Amnesty, parce que la section russe d'Amnesty existe toujours. Voilà. Donc, après ces présentations des trois premiers cas, je crois qu'Edith avait une...
Non, c'est moi.
Moi, je parlerai plus tard.
Non, c'est pas Edith,
mais
c'est
Claire-Lise. Parce que dans ton enchaînement, tu parlais de Russie. Et oui. Moi, j'avais une bonne nouvelle qui venait de Russie.
Et ça fait du bien, voilà. Une bonne nouvelle qui vient de Russie.
C'est, c'est pas souvent.
Voilà, tout à fait.
Donc, vous savez qu'on a plusieurs commissions avec des actions urgentes à Amnesty. On a une commission sur les droits des enfants et on a aussi une commission par rapport aux droits des femmes. Et donc, c'est une bonne nouvelle qui nous vient de cette commission qu'on a reçue cette semaine, qui nous a été relayée d'ailleurs par Juliane. On lui fait un petit coucou. Et qui concerne Lulia Tsleskova. Donc, c'est une artiste féminine russe dont nous suivons la situation depuis plus de 2 ans et qui a fait l'objet d'une action urgente. Et Lulia a été définitivement acquittée. Donc, elle était poursuivie dans une affaire pénale pour avoir publié sur les réseaux sociaux des dessins représentant des corps de femmes et des vulves. Pour cela, Lulia a été accusée de production et de diffusion de pornographie, un crime passible de 6 ans de prison. Lulia a été innocentée de ces accusations en juillet 2022, mais le procureur a fait appel de cette décision. Et le 22 novembre dernier, le tribunal a confirmé l'acquittement de Lulia. Cette décision est d'autant plus réjouissante qu'elle est un exemple rare de justice dans la Russie actuelle, a souligné Natalia Dzvigina, directrice d'Amnesty International Russie. Donc, et ce n'est pas tout. Mercredi 23 novembre, le groupe de Marseille Amnesty International France organisait le vernissage des œuvres de Lulia, auxquelles était présente la mère de Lulia, Anne, qui a fait le déplacement depuis Komsomolsk sur l'Amour à l'extrême est de la Russie. Ce vernissage était un franc succès. La galerie était pleine à craquer, le témoignage de la mère de Lulia était très émouvant. Jean-Claude Samoulier, le président d'Amnesty International France, était également intervenu pour saluer cette victoire et pour remettre à Anne des dessins et des messages de solidarité adressés à Lulia et recueillis par le groupe local de Perpignan. Anne était très touchée par toutes ces preuves de solidarité. Donc, de nombreuses actions ont été réalisées au sein d'Amnesty International France pour défendre Lulia et pour demander son acquittement. Donc, il y avait eu une action urgente Web App qui avait été lancée en octobre 2021, puis relancée en mars 2022, et 6000 personnes avaient interpellé les autorités russes via ce canal. Un dossier d'intervention a été créé en juillet 2020 pour suivre la situation de Lulia sur le long terme, et 8 groupes locaux d'Amnesty en France ont été fortement mobilisés. Ils ont lancé de nombreuses actions d'interpellation, des actions de sensibilisation et des actions de solidarité pour que la situation de Lulia ne tombe pas dans l'oubli. Ces groupes étaient en contact direct via les réseaux sociaux avec Anne, la mère de Lulia, et échangeaient très régulièrement avec elle. Anne a souligné que ce soutien a été très précieux pour elle et pour Loulia. En complément des groupes locaux mobilisés sur le dossier d'intervention de Loulia, cette victoire n'aurait pas été possible sans le programme, alors je ne sais pas ce que c'est, JGND, et l'équipe Protégeons les personnes, la commission Droits des femmes, la commission OSIG, les référents pays Russie et les personnes du pôle communication et du pôle développement travaillant sur l'application web app et les thématiques liées au genre et aux droits LGBT. Voilà, merci à elle et à eux. Et donc c'est un communiqué qui a été transmis par Alimio Bruno de la commission Droits des femmes Amnesty International France.
Merci Claire-Lise, donc c'est tout à fait à l'image des différentes structures d'Amnesty qui se mobilisent.
Oui. C'est ça, c'est un travail en commun.
Pour défendre quelqu'un, voilà, effectivement. Et donc ça a permis effectivement à cette femme qu'elle soit définitivement, blanchie des menaces qui pesaient sur elle.
C'est une artiste, c'est tout, quoi.
Oui,
et juste, je me permets, quand la maman de cette jeune femme russe disait que les messages de soutien, c'était très important, là, dans toute la campagne, on vous demande, et c'est complètement le rôle d'Amnesty, de signer les pétitions, de signer pour les gens, mais rien ne vous empêche de faire un petit mot. On sait là ce qu'ils aiment, toutes ces personnes-là, et quand on peut avoir un retour, on sait que c'est hyper important. La petite carte, le petit dessin, ou la photo avec en tenant le panneau. Il y a plein de petits gestes et ça aussi, ça fait tenir ces gens qui sont emprisonnés de façon complètement injuste.
Tout à fait. C'est important aussi de soutenir directement les gens dont on parle.
Et on vous dit quand c'est possible. Hein. Oui. Il y a pas mal de personnes pour cette année où on peut par les réseaux sociaux ou par Amnesty leur envoyer des cartes de soutien ou des petits mots.
On a d'ailleurs reçu déjà des cartes toutes faites d'Amnesty France à renvoyer à des gens de ces 10 jours pour signer.
Pour certains,
dont on
mais
vous
y a
parle
pour,
ce soir.
Pour d'autres, certains. Voilà. Ouais, pour d'autres, on vous parlera de...
On fait la première pause musicale et on se retrouve juste après.
D'inconnu à l'histoire tragique qui débarque dans votre fil d'actualité. Et ça vous touche, bien sûr. Et là, faut juste signer une pétition. Et d'un coup, vous vous sentez ridicule à vouloir sauver le monde en un clic, là, comme si entre une vidéo de bébé phoque et un coucher de soleil à Bali, vous alliez vraiment aider cet homme derrière les barreaux avec une petite signature. Et pourtant, vos milliers de petites signatures ont déjà libéré des centaines de personnes, comme Germain Rukuki, emprisonné pour avoir milité contre la torture au Burundi. Signez sur amnesty.fr pour continuer de rendre justice à toutes celles et ceux dont les droits sont bafoués.
Se mettre à dos, tous les amoureux du ballon, les fous de ce jeu rigolo. Allez, quitte à prendre un carton. 2022, la Coupe du Monde, prend le désert pour paysage. Elle a bon dos la Coupe immonde, si elle justifie l'esclavage. Comme il s'est tu, messieurs, mesdames, le chant des morts sous les stades, ce n'est pas un champ de bataille. Bienvenue au désert du Qatar. Imaginez, messieurs, mesdames, milliers de migrants sous le soleil, qui dans des conditions infâmes bâtissent de grandes citadelles. Jolis jouets de l'Émirat, grand paradis artificiel, bâti par des millions de bras sous une chaleur torrentielle. Des grands barnums climatisés, des terrains verts sous le soleil, pour la chaleur plus un saint. Le Qatar peut acheter l'hiver. Acheter le monde, Yann Arthus, Bertrand Sarkozy. Pourquoi pas la Coupe du Monde, monsieur Zinedine Platini. Que ferez-vous, monsieur Zidane, des millions de dollars qataris. Un cadeau ou un droit de douane, c'est que le football a un prix. Mais pas celui des droits de l'homme, exploité à 50 degrés. Pendant que messieurs sur leur podium nous jouent les belles prostituées. Danser, danser sur la planète, les supporters et les sponsors. Malgré les morts aux oubliettes, c'est sûr, il va y avoir du sport. Combien de victimes à ce jour, combien de victimes demain, pour se payer la Coupe du Monde, pour se payer du sang sur les mains. Enchaînés, broyés de ciment, privés de droits et de paroles. Rêve, rêve les migrants, quand les ballons s'envolent.
Yeah. Un dernier dribble, messieurs dames, pour la FIFA et ses vendus. Aux yeux du monde et c'est le drame, nous jouent les mafieux corrompus. Arrosés à coups de millions de pétrodollars à la chaîne, pendant que l'émir dans son salon jubile quand la coupe est pleine. Les courtisans de l'émirat qui bouffent à tous les râteliers. Les droits de l'homme on ne connaît pas, on tire tout ce qu'on peut tirer.
De retour sur antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International. Pour la suite de son émission, on vient d'entendre Trio à une chanson sur le Qatar. On est en pleine Coupe du Monde de foot, mais je crois que Carlise voulait vous en parler.
Eh bien oui, parce que Amnesty, on vous en a parlé plusieurs fois. Il y a la campagne « Ramenons la Coupe à la raison » par rapport à la défense des droits humains au Qatar et à toutes les dérives qu'il y a pu y avoir depuis des années dans ce pays. Et y a un scoop, hein, notre président français qui a quand même osé déclarer que le Qatar a fait d'énormes progrès par rapport aux droits humains, qu'il est sur la bonne voie. Et bon, il y a dû avoir quelques contrats assez juteux de gaz, puisque le Qatar se singularise par rapport à ses voisins. Il n'exporte pas du pétrole, il exporte du gaz naturel. Et comme on est en pénurie d'énergie, forcément, on s'assoit sur les droits humains pour signer des contrats, ce qu'a fait allègrement notre président.
Tu suggérais l'idée que l'argent...
J'ai su rester poli.
Tu suggérais l'idée que l'argent n'a pas d'odeur. C'est ça.
Bah écoute,
ouais, alors, et puis par rapport à tous les grands progrès du Qatar, moi j'ai vu une photo qui m'a un peu désespérée. C'est que il y a des professions. Il peut y avoir quelqu'un qui est assis sur une chaise. Alors avec la chaleur qu'il y a au Qatar, il tient une main en plastique pour indiquer et il dit toutes les 10 secondes le métro c'est par là, le métro c'est par là. Ça c'est un chouette boulot. Et je pense que ces conditions de travail sont vraiment au top. On devrait le proposer à notre président aussi.
Bon, on va en revenir à la suite de la présentation de nos cas pour cette grande campagne de mobilisation pour les droits humains d'Amnesty International qui s'appelle « 10 jours pour signer ». Et c'est Edith qui va vous présenter le cas suivant.
Alors, Bangladesh, vous savez, c'est ce pays-là pour qui le changement climatique est hyper important. Parce que c'est un pays qui est très plat, qui est même pratiquement en dessous du niveau de la mer pour certains endroits. Et donc, Shanewaz Choudhury, c'est un ingénieur et un militant bangladais. Il est passionné d'écriture et il aime les mots et il s'en sert pour témoigner des difficultés auxquelles est confrontée la population de la région de Banskali, où il vit, dans le sud-est du pays. Cette zone côtière, dont l'altitude est proche du niveau de la mer, est très exposée aux effets du dérèglement climatique. L'implantation d'une nouvelle centrale électrique à charbon dans son village devait marquer un tournant dans le développement de la région. Mais Shanewaz redoutait la destruction environnementale qu'elle entraînerait. Le 21 mai 2021, la zone a été balayée par une tempête. Des pluies diluviennes et des vents forts se sont abattus sur le village. Des maisons ont été détruites. Préoccupé par les effets sur l'environnement des projets comme celui de la nouvelle centrale électrique, dont il estimait qu'elle contribuait à une augmentation des risques de raz-de-marée, Shanewaz a partagé ses craintes sur Facebook. Il a aussi condamné plusieurs événements où 12 personnes auraient été tuées lors d'actions de protestation contre cette centrale. Dans une publication, il a encouragé les jeunes à s'exprimer haut et fort. Il a dit « La jeunesse de Banskali doit résister à l'injustice et soutenir le progrès en prenant courageusement la plume. » Eh bien, le lendemain, l'entreprise qui détient la centrale électrique a engagé des poursuites à l'encontre de Shanewaz, l'accusant d'avoir diffusé de fausses informations. le 28 mai 2021, Shane Oez a été arrêté par la police pour sa publication sur Facebook et en vertu de la loi bangladaise sur la sécurité numérique, dont les dispositions conduisent à une répression flagrante du droit à la liberté d'expression, il a été détenu 80 jours dans des conditions inhumaines sans être jugé. Il a été libéré sous caution le 16 août 2021, mais s'il est déclaré coupable, il encourt 10 ans de prison. Donc il va falloir interpeller les autorités et demander sa libération et l'arrêt de toute la justice par rapport à ce qu'il a fait, qui n'est que l'expression de son droit d'expression.
Et alors, juste pour compléter ce que tu viens de dire, une autre information, Edith, parce que tu parlais d'environnement. Et donc, il y a un petit communiqué, mais je ne vais pas vous le lire, je vais juste faire un tout petit résumé. Un petit communiqué, parce que vous savez que la COP 27 s'est achevée, sur un bilan on ne peut plus critiquable, dirons-nous, pour rester poli.
Modeste,
on va dire. Modeste. Et donc, Amnesty a publié un communiqué en disant, voici ce qu'il est dit au début, « Il était une fois deux COP. Celle de la joie lors de l'adoption du fonds sur les pertes et dommages, mais aussi celle de l'angoisse, puisque malgré les preuves scientifiques accablantes et les impacts croissants sur les droits humains, les négociations n'ont pas permis d'aboutir à des engagements vitaux sur l'élimination progressive de tous les combustibles fossiles, principal moteur de la crise climatique. » Voilà, alors en deux mots, ce fonds sur les pertes et dommages, c'est effectivement les pays « riches » entre guillemets qui se sont engagés vis-à-vis des pays du Sud à les dédommager par rapport à leurs atteintes à l'environnement et aussi au fait sur le fait qu'ils ne puissent pas utiliser difficilement utiliser leurs ressources en énergie fossile, puisqu'il faut mettre la pédale douce par rapport à l'exploitation des énergies fossiles. Mais en même temps, en fait, la COP s'est contredite, puisque c'est pour ça qu'Amnesty dit qu'il était une fois deux COP, parce qu'en fait, il n'y a pas eu non plus d'engagement de l'ensemble des pays pour réellement freiner l'exploitation des énergies fossiles et toutes ses conséquences en termes d'environnement et d'atteinte aux droits humains.
Donc, voilà. Et ce matin, ils ont réouvert en France une centrale qui fonctionne donc de charbon, qui avait été fermée en mars. Ils l'ont rouvert et dont le journaliste qui disait « bah oui, il y a l'urgence climatique, mais il y a aussi l'urgence énergétique. Et donc, comme c'est l'urgence énergétique, eh ben, on s'assoit sur l'urgence climatique et on rouvre une centrale à charbon. »
C'est ça.
Voilà.
C'est exactement ça.
Vive voilà. La France.
Comme on disait tout à l'heure, pour la deuxième fois, l'argent n'a pas d'odeur.
Voilà, et le Bangladesh va pouvoir être submergé facilement. Voilà.
C'est ça. Je crois que pour vous présenter les cas, je vais arriver à le dire, c'est Claire Lys qui doit vous parler du Maroc, je crois.
Oui, c'est ça. Donc là, je vais vous présenter la situation d'un homme qui s'appelle Nasser. Alors, Zafi, donc c'est un petit peu dur à prononcer. Nasser menait une vie paisible avec sa famille dans le Rif, une région au nord du Maroc où la situation en matière de droits de santé, d'éducation et d'emploi est très précaire. Les gouvernements qui se sont succédés dans le pays n'ont cessé de marginaliser la population locale. En octobre 2016, des manifestations pacifiques ont débuté à Al-Oselma, la ville de Nasser, à la suite de la mort d'un poissonnier qui avait été écrasé par un camion poubelle alors qu'il tentait de récupérer des poissons saisis par les autorités. Des milliers de personnes ont défilé pacifiquement pour exprimer leur tristesse et leur frustration. Elles réclamaient un changement social. C'est ainsi qu'est né le Irak du Rif, mouvement populaire qui revendique plus de droits sociaux et économiques. Nasser, qui croyait profondément en la justice et en l'égalité, en est devenu une figure de proue. Dans les mois qui ont suivi, les forces de sécurité marocaines ont arrêté des centaines de manifestantes et de manifestants. Le 29 mai 2017, Nasser a été arrêté pour avoir interrompu un prêche dans une mosquée et pour avoir accusé l'imam de se faire le porte-parole des autorités. Durant sa garde à vue, Nasser a subi des tortures et d'autres mauvais traitements de la part de la police. Le 27 juin 2018, Nasser a été condamné à 20 ans de réclusion simplement pour s'être exprimé ouvertement. Il est maintenu à l'isolement depuis son arrestation. Contraint de vivre dans des conditions déplorables en prison, son état de santé s'est considérablement dégradé. Il souffre de plusieurs problèmes de santé, notamment de troubles respiratoires, de troubles de la vue et de douleurs neurologiques. La direction de la prison le prive de soins médicaux dont il a besoin. Nous sommes des enfants de gens pauvres et simples. Nous sommes sortis dans la rue pour dire non à la marginalisation et non à la corruption. Et donc cet homme donc est condamné à 20 ans d'emprisonnement et il est donc emprisonné dans des conditions... on sait bien hein, que dans certaines régions du Maroc, les prisons sont quand même pas tout à fait conformes aux droits humains. Voilà, donc on vous invite à signer pour ce jeune homme.
Eh bien, on va rester en Afrique, puisque le cas que je vais vous présenter maintenant, ici, c'est un cas de défense qui se passe au Cameroun, et elle s'appelle, puisque c'est une femme que l'on défend, Dorgelès Nguessane. Norgelès Nguessane, comme disait Edith, effectivement, dans Amnesty, il y a le mot international, donc on a souvent des noms qui sont difficiles à prononcer. Donc Norgelès Nguessane, coiffeuse de métier de 37 ans, commençait depuis 2 ans à développer son activité quand sa vie a basculé. Préoccupée par la situation du pays, en particulier au niveau économique, elle a décidé pour la première fois de sa vie de participer à une manifestation organisée par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le 22 septembre 2020, à Douala. Alors que la manifestation se déroulait de façon pacifique, les forces de sécurité ont utilisé des balles en caoutchouc, du gaz lacrymogène et des canons à eau pour disperser la foule. Les forces de l'ordre ont arrêté plus de 500 personnes, dont Dorgelès. Elle a été emmenée à un poste de police où elle a été placée dans une cellule avec 22 autres personnes dans des conditions inhumaines et où un policier a essayé de l'agresser sexuellement. Le 29 septembre 2020, Dorgelès a été transférée à la prison centrale de Douala, où elle se trouve toujours. Inculpée pour insurrection, réunion, manifestation publique et attroupement, elle a été jugée par un tribunal militaire et condamnée à 5 ans d'emprisonnement le 7 décembre 2021. Avant d'être arrêtée, Dorgelès Nguessane était celle qui subvenait aux besoins de sa famille. Célibataire, elle s'occupait de sa mère âgée et de son fils de 18 ans, qui est atteint d'anémie falciforme. Sans Dorgelès, sa famille n'arrive que très difficilement à payer ses médicaments. Alors voilà ce que dit Dorgelès. « Je voulais un changement au Cameroun et j'ai pensé que ma voix pouvait contribuer à le générer. Je souffre beaucoup en prison et ma famille souffre énormément. J'espère que de nombreuses personnes se mobiliseront pour que je retrouve ma liberté. » Je suis avec vous de tout cœur. Merci beaucoup. Donc on demande effectivement, en interpellant les autorités responsables, de libérer effectivement Dorgelès et de lui témoigner et aussi de manifester aussi votre soutien pour elle et en envoyant des messages de soutien qui lui seront transférés via le Bureau international d'Amnesty à Dakar, au Sénégal. Voilà. Donc elle s'appelle Dorgelès Nguessane. Elle est en prison depuis deux ans, alors qu'elle n'a absolument rien à y faire. Voilà, et je crois que, pour changer un peu, Edith avait des bonnes nouvelles.
Alors oui, moi j'ai trouvé des bonnes nouvelles. Alors franchement, c'est pas souvent... il y en a tout le temps, mais souvent je choisis des thèmes qui sont avec des problématiques vraiment très amnistiennes. Donc là, bonne nouvelle. Alors, on va aller en Tanzanie. Alors, Tanzanie, il y a la communauté Maasai. Et c'est vrai que ça fait déjà un petit moment que j'ai entendu qu'il y avait pas mal de problématiques sur les territoires Maasai avec des entreprises qui souhaitaient récupérer ces territoires et l'État qui ne gérait pas ça terriblement. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que le directeur du ministère public de Tanzanie a abandonné les poursuites pour meurtre et collusion en vue de commettre un meurtre à l'encontre de 24 membres de la communauté Maasai dont 10 de leurs dirigeants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le 7 juin 2022, des forces de sécurité tanzaniennes et les autorités de la zone de conservation du Ngorongoro sont arrivées à Loliondo et ont commencé à expulser de force des membres de la communauté Maasai sans les avoir prévenus suffisamment à l'avance, sans indemnisation et sans avoir pris la peine de lancer un véritable processus de consultation pour obtenir leur consentement préalable, libre et éclairé. Et au nom de la conservation, ils ont saisi 1500 km² des terres ancestrales revendiquées par plus de 70 000 Maasai. Donc les terres ancestrales, c'est quelque chose qui fait vraiment corps dans la communauté Maasai. Donc le 9 juin, des membres de cette communauté sont venus pour manifester près du parc de Serengeti contre cette démarcation qui a enlevé leur territoire. Ils ont enlevé les panneaux qui marquaient la limitation des terres. Le 9 juin toujours, soit un jour avant la mort d'un policier qu'ils sont accusés d'avoir tué, la police avait déjà arrêté les 10 dirigeants Maasai ainsi que 14 autres membres de la communauté Maasai et 3 autres personnes. Ces personnes ont été détenues pendant 11 jours et privées de contact avec leurs avocats et leurs familles. Et le 10 juin, il y a eu encore des manifestations et c'est là que ce pauvre policier, effectivement, a été tué. Mais il y a aussi 32 membres de la communauté Maasai qui ont été blessés par balles. Donc, effectivement, c'est absolument la moindre des choses que la Tanzanie arrête les poursuites. Et il va falloir absolument qu'il y ait un moratoire et des discussions sur ces terres qui sont tellement...
Oui, parce que là, ils ont arrêté les poursuites contre les Maasai,
voilà,
mais ils n'ont pas rendu les terres.
Voilà, non, c'est ce que demande Amnesty, qui doit être... Les terres doivent être rendues au peuple autochtone Maasai. Donc là, il y a encore des choses à suivre.
Elles vont avoir été défrichées avant.
Voilà, on va voir. Je vais m'intéresser un peu sur ça et puis on donnera des nouvelles, etc. Et la Tanzanie doit aussi cesser de réprimer le droit à la liberté de réunion, quoi. Et ne pas tirer sur les manifestants, on va dire.
Comment ça? Parce qu'il y a des pays qui tirent sur les manifestants.
Parce que...
Non, mais en France, pas chez nous.
Le policier, il a été tué, mais il y en a eu d'autres. Enfin, ça a été vraiment un grand... Quelque chose de terrible, quoi. Voilà, une bonne nouvelle, peut-être un peu de musique.
Oui, mais tu n'avais pas une bonne nouvelle concernant la Turquie aussi?
Eh bien, ça sera après la musique.
Bon, alors, après la musique.
Et l'on garde pour la fin.
Parce que, voilà, nos auditeurs, ils ont peut-être envie d'écouter de la musique.
Oui, donc on y va.
Venu des hauts plateaux, incendiés par la guerre, écrasés de soleil, des fourmis silencieuses, fouettées par la poussière, dévorées par le sel. On avait tous un jour imaginé la mer et la douceur du vent. Et dans cette nuit noire, qu'on a payé si cher, on coule en dérivant. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murennes, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, des vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer. On est venu de loin, plus loin que tes repères, à des millions de pas. On est venu à pied, du fond de la misère, on nous arrête pas. Retourne à la maison, et si j'en avais une, je ne serais pas là. Et la mer engloutit dans un rouleau d'écume, mon chant et puis ma voix. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murennes, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, les vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer. Imaginez la mer. démons dans des villes, ombre parmi les ombres, des longs couteaux tirés à deux doigts de l'Europe. On a rêvé si fort, on commence à douter. Tu es resté debout, devant les barbelés, sur le ciel minéral. Tu commences à ramper, en dessous du silence et dans l'oubli total. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murennes, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, les vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International, pour la suite de son émission de promotion et de défense des droits humains consacrée à notre grande campagne annuelle 10 jours pour signer. Et aux bonnes nouvelles. Et c'est Claire Lise qui va vous présenter le cas.
Il s'est encore emmêlé les pinceaux.
Bah non, on avait dit ça.
Mais si, non, c'est parce que c'est moi qui vais parler en premier et Claire Lise en deuxième.
Bon, d'accord, ok.
Ah, alors, c'est dur, c'est dur notre.
Non, je n'avais pas tout compris.
Non, mais c'est pas compliqué. Non, c'est parce que tu voulais la deuxième bonne nouvelle et j'avais dit juste après la chanson.
D'accord.
En plus, c'était la vie, oui. C'était bien. Alors, donc, moi, ma deuxième bonne nouvelle, c'est. Ça se passe en Turquie. Ben là, pareil, c'est un pays où les bonnes nouvelles par rapport à des jugements, c'est pas souvent. Eh bien, la Haute Cour de Turquie annule la condamnation de 4 défenseurs des droits humains en procès depuis 2017. Et alors, parmi ces défenseurs, ceux qui nous écoutent depuis au moins 2017 savent qui est le président honoraire d'Amnesty Turquie, Taner Kılıç. Et İdil Eser, ex-directrice d'Amnesty Turquie, avait été arrêtée en 2017. Et ils sont passés quand même un certain moment en prison. Et ils sont sortis, je pense, une bonne année après. Mais il y avait encore des jugements qui étaient en cours. Donc là, ils sont carrément... le jugement est complètement arrêté. Alors, si la décision de cette haute Cour d'appel de Turquie d'annuler la condamnation infondée du président honoraire d'Amnesty International Turquie de 3 autres défenseurs des droits humains est un immense soulagement. Elle met de nouveau en évidence le caractère politique des poursuites, a déclaré Amnesty International le 22 novembre 2022. Ça, on en était sûr que c'était politique. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que pendant plus de 5 ans, nous dit Amnesty, nous avons vu les rouages de l'injustice à l'œuvre. Alors que les tribunaux successifs ont accepté comme des faits les accusations sans fondement portées contre ces 4 courageux défenseurs des droits humains, ce jugement révèle le véritable objectif de ces poursuites à caractère politique, se servir des tribunaux comme d'une arme pour faire taire les voix critiques. Voilà, donc je trouve que l'analyse pour la Turquie n'est pas mauvaise du tout.
Voilà, et comme quoi, effectivement, ça sert de se mobiliser longtemps, parce que ça fait des années qu'on s'est mobilisé, entre autres, pour Taner Kılıç. Voilà.
Et là, on peut dire que lui, il avait la chance, Amnesty, il avait aussi une étiquette avec lui, quoi. Oui. Mais quand même, ça a duré très très longtemps. Claire Lise ?
Oui, je vous emmène à Cuba. Donc, je vais vous parler de Luis Manuel Otero Alcántara. Et là, je prononce bien.
Révisez l'espagnol.
Luis Manuel Otero Alcántara est un artiste autodidacte afro-cubain. Il aime peindre, danser et faire des performances artistiques. Sa maison de San Isidro est l'un des quartiers les plus pauvres de la Havane, est un refuge, une maison ouverte où il est possible de rencontrer des personnes et de créer des liens grâce à de nombreux événements. Indigné par le décret 349, un texte de loi visant à réduire au silence les artistes exprimant des critiques sur la situation du pays, Luis Manuel est devenu l'une des voix les plus actives du mouvement San Isidro, un collectif d'artistes, de journalistes, de militantes et de militants de tous horizons qui défend le droit à la liberté d'expression. En raison de leur défense des droits humains, ses membres sont placés sous surveillance et victimes d'actes d'intimidation et de détention. Le 2 mai 2021, des agents de sécurité de l'État sont allés chercher Luis Manuel à son domicile, où il observait une grève de la faim pour protester contre la saisie de ses œuvres et par les autorités. Ils l'ont emmené dans un hôpital et ils l'ont coupé du monde extérieur. Après sa libération, un mois plus tard, les forces de sécurité ont continué à le surveiller dans sa vie quotidienne. Le 11 juillet 2021, Luis Manuel a diffusé en ligne une vidéo dans laquelle il indiquait qu'il allait participer à l'une des plus grandes manifestations que Cuba ait connues depuis des décennies. Il a été arrêté avant le début de la manifestation et emmené à la prison de sécurité maximale de Guanajay, où il se trouve toujours. En juin 2022, Luis Manuel Otero Alcantara a été condamné à 5 ans de prison à l'issue d'un procès à huis clos. Il est régulièrement privé de son droit de visite en prison, où son état de santé se dégrade sans bénéficier de soins médicaux adaptés. Alors, nous, on vous appelle à signer pour, évidemment, sa libération. Donc, l'œuvre d'un artiste peut faire transparaître le sentiment qui se dégage de la réalité d'un pays. C'est une responsabilité qu'un artiste doit assumer. Un grand merci pour votre soutien. Voilà, donc, signé pour Luis Manuel Otero Alcantara, duc de Cuba.
Cuba. À Didier.
Ah, c'est à moi.
Mais
alors, on va voir si tu prononces bien.
Tu as, oui, tu passes ton
tour.
Ah,
j'ai changé, j'ai changé l'ordre, voilà, mais ça viendra.
Bon, alors, si vous changez le conducteur, c'est compliqué pour qu'on s'y retrouve. Donc, moi, je vais vous parler de Cho Ang Tung. J'espère que je prononce bien, effectivement. Et c'est une personne de Hong Kong. Cho, avocate spécialisée dans les droits humains et militante pour les droits des travailleurs et travailleuses, était la vice-présidente de la Hong Kong Alliance. Cette organisation, aujourd'hui dissoute, est à l'initiative de la plus grande veillée annuelle à la bougie organisée pour rendre hommage aux victimes de la répression de la place Tiananmen. Alors, petit rappel, en 1989, près de cette place à Pékin, des centaines de personnes, voire des milliers, ont été tuées lorsque l'armée a ouvert le feu sur des manifestants pacifiques qui demandaient des réformes sociales et économiques. En 2020 et 2021, les autorités de Hong Kong ont interdit la veillée en prétextant des raisons de santé publique liées à la pandémie du Covid-19. Le 4 juin 2021, sur des réseaux sociaux, Cho a encouragé les personnes à commémorer la répression en allumant des bougies. Elle a été arrêtée le jour même pour avoir fait la promotion de la publicité d'une réunion non autorisée. Cho purge actuellement une peine de 22 mois de prison pour un rassemblement non autorisé. Elle risque également une peine de prison supplémentaire allant jusqu'à 10 ans pour incitation à la subversion en vertu de la loi récente relative à la sécurité nationale pour avoir uniquement exercé son droit à la liberté d'expression. Le gouvernement chinois souhaite que le peuple oublie cette tragédie, la tragédie de Tiananmen, mais Cho s'est donné pour mission de garder dans les mémoires les victimes de la répression de cette place. L'histoire ne peut être effacée et les personnes détenues pour avoir commémoré pacifiquement les événements doivent être libérées. Alors voilà ce qu'elle dit. Les autorités ne seront pas en mesure d'interdire les bougies dans tous les recoins de Hong Kong. Pour le moment, nous devons toutes et tous veiller sur ces flammes dans cette froideur amère. Voilà, donc on demande effectivement aux autorités chinoises d'abandonner toutes les charges retenues contre Cho et de la libérer immédiatement. Voilà, et de réviser également, comme pour les Russes, de réviser et de modifier l'ensemble des lois et des règlements qui empêchent l'exercice des droits humains, en particulier de la liberté d'expression. Voilà, donc c'était un dédicat, des 10 jours pour signer, et je crois qu'Edith va vous présenter le suivant.
Alors moi, c'est l'Iran. Et l'Iran, c'est vraiment des conditions terribles. On en a parlé il n'y a pas longtemps, et il y a toujours ces manifestations. Donc je vais vous parler, moi, de Waïd Afkari. Alors Waïd, il est issu d'une famille soudée. Il aime lire, chanter, danser chez lui avec ses frères Habib et Navid. En 2016, 2017, 2018, les trois frères ont participé pacifiquement à des manifestations dans leur ville Shiraz contre les inégalités et la répression politique. Le 17 septembre 2018, Waïd et Navid ont été arrêtés à leur domicile pour avoir manifesté. Habib, lui, a été arrêté 3 mois plus tard. Les autorités iraniennes ont détenu les 3 frères à l'isolement, les ont torturés et les ont obligés à avouer des infractions qu'ils ont déclarées à maintes reprises ne pas avoir commises. Ces hommes ont été déclarés coupables d'infractions sur la base de considérations politiques du fait de leur participation pacifique aux manifestations. Waïd et Navid ont également été déclarés coupables à la suite d'une accusation sans fondement liée à l'homicide d'un agent des forces de sécurité. Les autorités ont injustement condamné Navid à mort et Habib et Walid à plusieurs décennies de réclusion et 74 coups de fouet chacun. Les 3 frères ont été placés à l'isolement dans des cellules séparées en septembre 2020. Le 12 septembre 2020, Navid a été exécuté en secret sans que sa famille ni ses avocats n'en soient informés. Son exécution a soulevé un tollé en Iran et dans le monde entier et a entraîné l'intensification de la campagne en faveur des 2 autres frères, Waïd et Habib. Ce dernier, Habib, a été libéré de prison en mars 2022 après avoir passé 550 jours à l'isolement. Mais les autorités maintiennent Waïd à l'isolement depuis septembre 2020, le coupant totalement des autres prisonniers. Il s'agit d'un traitement cruel visant à le punir de ne pas se plier à la volonté des autorités, lesquelles exigent qu'il fasse une déclaration publique décriant les personnes qui, en Iran et dans le reste du monde, demandent justice pour sa famille. Alors il dit « Aujourd'hui, les limites de la cruauté sont repoussées. Elles, les autorités, arrêtent et placent en détention des personnes innocentes, les poursuivent en justice et les condamnent sans preuve, les privent de leur vie, ou pire encore, les exécutent. Aujourd'hui, je ne sais pas par quel moyen je peux me défendre. Et comment dire aux gens que j'ai besoin de leur aide ? Tout ce que je peux faire, c'est continuer à invoquer la loi et en appeler à la logique et à la raison. » Alors effectivement, on va demander aux autorités iraniennes de libérer immédiatement Waïd Afkari, d'annuler ses condamnations injustes et d'abandonner toute charge liée à la participation pacifique des manifestations, et de mettre fin à sa détention, à l'isolement et de lui fournir des soins médicaux. Voilà, donc on finit par vraiment, il faut absolument lui adresser aussi, lui, des messages de soutien. On peut le faire par l'intermédiaire de son frère. On peut avoir les coordonnées parce que je pense qu'il en a vraiment besoin.
Une petite information que j'ai lue là en préparant l'émission tout à l'heure sur le site d'Amnesty. Amnesty se félicite, alors c'est pas vraiment une victoire, on peut pas appeler ça comme ça, mais c'est une avancée. Amnesty, à propos de l'Iran, Amnesty se félicite que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a décidé à l'unanimité d'ouvrir une enquête sur les atteintes aux droits humains qui ont lieu en ce moment. Inutile, on vous en a parlé dans la dernière émission, et si vous suivez les actualités, on en parle souvent. Donc effectivement, inutile de vous expliquer pourquoi hein, tous ces manifestants sur lesquels les autorités iraniennes et la police des morts se tirent à balles réelles. Il y a déjà plusieurs centaines de morts. Donc effectivement, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé d'ouvrir une enquête pour crime contre l'humanité, mais enfin atteinte aux droits humains fondamentaux, bien évidemment en Iran, et de poursuivre les responsables de ces crimes, c'est-à-dire les autorités iraniennes, quelles qu'elles soient. Bon, pour l'instant, c'est une décision. Il faut maintenant qu'il y ait un budget qui soit affecté par l'ONU, etc., et que les autorités iraniennes soient contraintes d'ouvrir leurs frontières pour laisser les enquêteurs venir sur place pour faire le travail. Donc rien n'est encore définitivement acquis, mais c'est une première avancée importante. Et Amnesty International, effectivement, il y a 2 ou 3 jours, a publié un communiqué pour saluer cette avancée, en espérant que ça puisse mettre un terme, effectivement, à ce régime iranien qui massacre, et ce n'est pas la première fois, qui massacre sa population civile. Uniquement, oui, il y a Claire Lys qui me fait signe que l'heure tourne.
Bah, ce que je pense aussi, ce qui est important, c'est que ça soutient, c'est soutien à l'étranger, on en avait parlé dans les dernières émissions, pour les manifestants et tous ces jeunes hommes et femmes qui manifestent en Iran. Et ça c'est un point positif.
Oui, tout à fait. Puis juste pour conclure, ça ira très vite, Claire-Lise, juste pour conclure, j'ai lu aussi, et ça c'était pas dans une source amnistienne, mais une autre source d'information tout à fait fiable, qu'à l'heure actuelle, effectivement, il y a un certain nombre, les gens qui ont des informations venant d'Iran, note qu'il y a un certain nombre de désaccords au niveau des responsables politiques entre les mollahs, etc., etc., enfin les différentes structures de pouvoir, certains désaccords, et il y a des responsables politiques qui commencent effectivement à prendre leur distance par rapport à ces répressions sauvages là-bas. Donc voilà. On va toucher au terme de l'émission.
Qu'on a fini tout à fait nos cas, je pense qu'il nous en reste un peu.
Il nous en reste un, effectivement.
Non, mais là, on n'a pas le temps.
Non, mais c'est pour dire qu'on en parlera effectivement à la prochaine émission.
Paraguay.
On n'a pas fait un choix, hein. C'est l'heure qui décide, là.
Tout à fait, c'est au Paraguay. C'est pour de défendre deux personnes transgenres qui s'appellent Irene Rotella et Mariana Sepúlveda.
De toute manière.
J'ai réussi à bien le dire cette fois.
C'est bien.
Donc voilà, et on vous en parlera un petit peu.
De toute manière,
la
vous pouvez
fois.
Les trouver si vous avez envie. Voilà, sur le site d'Amnesty.
Sur le site d'Amnesty. Allez. 10 jours pour signer. Vous pouvez signer les pétitions en ligne. Elles sont déjà en ligne depuis aujourd'hui ou hier, je ne sais plus.
Dans
elles sont
notre
en ligne,
petit quotidien.
Alors, donc, on va tenir, nous, des stands. Alors, on n'a pas encore tout calé au niveau des dates, mais on va tenir un stand à Biocop très prochainement, je pense, la semaine prochaine. On va publier les informations sur nos réseaux sociaux, hein, Amnesty International Évreux. Et puis Instagram aussi, Évreux, et sur Instagram, c'est amnesty.évreux. Donc voilà, on ira très probablement à Biocop, on ira au marché de Noël qu'organise la brasserie Sport à Gravigny.
C'est le 11.
Ça, c'est le 11 décembre, c'est sûr. Et on espère pouvoir tenir un stand aussi.
Les copains d'Artisans du Monde.
Voilà, devant la boutique d'Artisans du Monde. Donc consultez nos réseaux sociaux, vous aurez toutes les informations en ligne très rapidement. Et puis, je voulais vous signaler aussi, ça, ce n'est pas une information amnistienne, mais c'est important. Oui, on va laisser la place. Il y a demain une conférence dans le cadre du festival...
Film pour l'éducation.
Merci. Au cinéma d'Évreux. Il y a demain matin, entre 9h, de 9h à 13h, une conférence de François Jemaine, qui est assez connu, qui est un chercheur spécialiste des migrations et du changement climatique, et qui fait une conférence sur le thème enjeux climatiques, comprendre, décider et agir pour l'éducation. Et moi, je vais essayer d'y aller, effectivement, c'est ouvert à tout le monde.
Peut-être les autres aussi, on va ouvrir à tout le monde.
Et donc, et tous ceux qui veulent y aller, et que c'est important, effectivement, d'y participer, parce que je pense que des choses importantes seront dites.
Allez voir sur le programme.
Voilà. Et nous, on se retrouve.
On va saluer tout le monde.
Et nous, on se retrouve pour la prochaine émission d'Amnesty, le mardi 13 décembre, à 19h, en direct sur Principe Actif.
Voilà. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.